Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Aujourd'hui, le tourne-page est consacré aux guerres de Vendée, Guerre de Vendée pour les nuls, un ouvrage de Michel Chamard, publié aux éditions First. Cette émission est réalisée par Simon Martin avec votre serviteur Pierre-Alain Bénard. Michel Chamard est un historien de formation, spécialiste de la Vendée, directeur du Centre Vendéen de Recherche Historique de 2011 à 2014 et professeur à l'ICES, l'Institut Catholique d'Études Supérieures de La Roche-sur-Yon. Il a choisi d'écrire dans la collection Pour les Nuls. Pour les Nuls, vous connaissez sans doute cette collection, c'est du jaune et du noir sur la couverture. C'est une entreprise de vulgarisation avec une présentation pédagogique et un ton voulu simple et humoristique. Pour la petite histoire, je vous dirais que j'ai conservé comme livre de chevet le bricolage pour les nuls parce que je suis pas très doué pour le bricolage et j'avoue que cela m'apporte de temps à autre quelques recettes. Voilà pour la collection. Alors, les guerres de Vendée, oui, les guerres de Vendée, parce qu'il y en a une principale qui nous intéresse, qui va peut-être vous intéresser, j'espère, aujourd'hui. C'est la Grande Guerre de mars 1793 à avril-mai 1795. C'est une guerre civile, français contre français, particulièrement atroce, avec des massacres de masse de population civile. On a dit, alors les chiffres sont très très variables, on a dit 20% voire 30% de la population, ce qui est quand même considérable. Je ne suis pas certain que Pol Pot ait fait pire. Histoire tragique avec un sujet occulté par les révolutionnaires de Thermidor et leurs successeurs. Avec un grand silence dans la littérature, dans les livres scolaires, vous ne trouverez pas grand-chose. C'est une période méconnue, souvent caricaturée et pourtant cruciale de la Révolution française. Il a fallu 2 siècles pour en sortir. Et c'est Reynald Secher, dans une soutenance de thèse en 1993, qui a parlé, qui a développé ce sujet au moment du bicentenaire de la Révolution française. Autant dire que ça a été très mal vu par les autorités de l'époque. Il a écrit par ailleurs un ouvrage du génocide au mémoricide publié aux éditions du Cerf. Nous en parlerons un petit peu plus loin. Alors, que nous enseigne donc ces guerres de Vendée pour les nuls? Eh bien, je ne vais pas vous faire un commentaire de la 4e page de couverture. Autant dire que vous pouvez le faire aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Mais il est important de rapporter les faits. J'avoue que les faits, on peut essayer quand même de les approcher avec des recoupements. La Révolution a consacré l'installation au pouvoir d'une bourgeoisie urbaine. Et puis, il y a eu cette escalade dans la violence des gouvernements révolutionnaires successifs. On a parlé de terreur. Et en face, il y a la résistance passive d'une population catholique. Alors, qui est concerné? On a parlé des chouans. Eh bien non, parce que la chouannerie, c'est un mouvement contre-révolutionnaire royaliste qui est localisé au nord de la Loire. Rien que des Vendéens, non. Cela a concerné 600 paroisses. Ce qu'on a appelé la Vendée militaire, c'est-à-dire au-delà de la Vendée actuelle. C'est au sud de la Loire, entre Nantes, Saumur, les Sables-d'Olonne, Parthenay. Ce n'est pas non plus un complot royaliste, comme on l'a entendu, comme on l'a écrit. Et c'est tout à fait différent de la chouannerie bretonne. L'élément déclencheur a pour essence la religion. Les guerres de Vendée, les guerres en Vendée pour les nuls, le contexte local, les Vendéens sont des gens simples, modestes paysans, artisans, vivant dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'austérité, population homogène, attachée aux traditions, à la terre et à la religion catholique. On est arrivé là par diverses décisions républicaines, réquisition du grain, réservé aux citadins, une politique anti-religieuse qui contredit l'affichage de la liberté, une des idées révolutionnaires, avec la constitution civile du clergé, l'assemblée civile, une assemblée d'électeurs élit les évêques, élit les prêtres et les vicaires, et les élus doivent prêter serment à la constitution civile. On en est à la déesse raison. Autant dire qu'il y a des prêtres réfractaires qui s'interdisent de prêter serment. Et ces prêtres réfractaires sont interdits de messe à partir de 1791. Ils vont être expulsés, notamment en Espagne, à partir de septembre 92. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. Et puis, l'élément vraiment déclencheur, c'est la conscription. Il faut 300 000 hommes pour lutter contre l'Europe qui est liguée contre la France révolutionnaire, lutter aussi contre l'ennemi de l'intérieur. Alors ça concerne les célibataires de 18 à 40 ans, avec un tirage au sort, dont sont exclus, tenez-vous bien, les révolutionnaires et plus généralement les gardiens de la Révolution, mais également les membres de la bourgeoisie qui se font racheter leur mauvais numéro. Où est l'égalité, une des valeurs affichées par les révolutionnaires? L'insurrection va être déclenchée lors de la conscription à Saint-Florent-le-Vielle le 12 mars 1793. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À partir de là, à partir de l'émeute, de l'insurrection, va se constituer une grande armée catholique constituée de paysans, d'artisans, armée de faux, de fourches, très inexpérimentés, mais connaissant le terrain. On les appellera les Blancs. Et puis en face, les troupes républicaines, mieux équipées, plus nombreuses, on les appellera les Bleus. Alors, bien sûr, les Bleus, ils vont gagner, évidemment. Je vous rappelle que je vous parle des guerres de Vendée pour les nuls, ouvrage de Michel Chamard, avec une législation extrêmement détestable qui va véritablement souffler sur les braises. Une législation pour tous du 19 mars 1993 qui met hors la loi les rebelles, c'est-à-dire tous ceux qui n'acceptent pas les bienfaits de la Révolution, les révoltés, qui vont être privés de toute protection légale. Tous les coups seront permis, ce qui permettra à un certain Carrier, chef des armées de l'Ouest, chef de l'armée républicaine de l'Ouest, de justifier ces atrocités, notamment à Nantes. On massacrera les prisonniers, les blessés dans les hôpitaux, et on n'épargnera pas les civils. Il y a des lois spécifiques pour la Vendée. 1er août 1793, discours de Barère à la Convention, détruisez la Vendée. Il y a une loi d'octobre 1793 qui prescrit l'extermination de tous les brigands. Et puis, en novembre 1793, la Convention rebaptise la Vendée du nom de département Vengée. Vengée vient du nom de la guillotine appelée Vengeur. Vous voyez comme tout ça est très symbolique. Après les atrocités de Carrier et de ses adjoints, il y aura les colonnes infernales de Turot, et ce sont 12 colonnes militaires qui ratisseront la région avec l'ordre de tout incendier, de tuer tous les habitants, de massacrer tous les Vendéens en les visant comme tels. Et des historiens d'aujourd'hui parleront de crimes, de génocide. C'est très grave. Alors, je vais quand même vous citer un passage assez significatif, assez révélateur. qui illustre l'oradour 21. L'oradour 21, c'est une expression de Michel Chamard dans cet ouvrage « Les guerres de Vendée » dont je vous parle aujourd'hui. Cette commune s'appelle les Lucs sur Boulogne. Les Lucs sur Boulogne préfigurent Oradour sur Glane. 564 tués, dont 110 enfants de moins de 7 ans, y compris les nouveau-nés, dans des conditions épouvantables que je ne puis évoquer à ce micro. Et puis, ça a été comme ça dans toute la Vendée, dans de multiples villages et hameaux. La paix ne reviendra que plus tard, et finalement, lorsque les cloches ressonneront, avec le concordat signé à Paris le 15 juillet 1801 entre le représentant du pape Pie VII et celui de Bonaparte, premier consul. Alors, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, de l'histoire, il faut essayer de tirer des leçons. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, mais les revues foisonnent aujourd'hui. On parle de la Vendée et on parle de mémoricide, on parle de génocide, on parle de cette thèse du génocide. C'est assez grave, bien sûr, mais il faut quand même s'y arrêter. Le peuple vendéen a résisté. Ils sont morts, ces membres du peuple vendéen, pour leurs idées. Il y a une controverse qui consiste à savoir quelle est la définition du crime, mais il semble que la définition que j'évoquais tout à l'heure est la plus souvent retenue. Reynald Secher indique que les moyens d'extermination des Vendéens mis en œuvre par le Comité de salut public et la Convention préfigurent ceux des régimes totalitaires du XXe siècle, Lénine, Hitler, voire Pol Pot au Cambodge. Il nous appartient de rester lucides, d'être vigilants, et puis nous avons cette chance de bénéficier de la multiplication des sources d'informations en se méfiant des fausses nouvelles, ce que j'appelle les fariboles. Et naturellement, il faut garder l'espoir que les bergers des temps modernes ne conduisent pas les peuples des innocents repentis à l'abattoir. Et je vous invite à lire cet ouvrage, « Les guerres de Vendée pour les nuls ». Ça fait plus de 400 pages, mais on n'a pas l'impression de s'attaquer à un pavé de cette importance. C'est très structuré, on peut reprendre l'ouvrage quand on veut. Il est notamment à l'apostrophe, la médiathèque de Chartres. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, à un prochain tournepage. À bientôt.